Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Et les grandes voix sont au complet aujourd'hui. Bonjour à Catherine Ney, Charles Villeneuve, Michel Cotta, Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour. Bonjour.
Les anti-vax, j'ai très envie de les emmerder. Au-delà de la phrase de la semaine, c'est une phrase qui restera dans l'histoire politique de la France. Quoi qu'on en pense, Emmanuel Macron répondait au lecteur du Parisien, venu lui poser des questions à l'Élysée. Mais ses mots ont une portée bien plus grande qu'on ne le pense. Et même qu'il ne le pensait lui, peut-être. Le débat à l'Assemblée s'est envenimé. Il a fallu 3 nuits blanches pour adopter le très controversé passe vaccinal. Avec un service après-vente féroce, Jean Castex en tête, ce coup de poker que fait le président désormais clairement candidat n'est-il pas une faute politique? À quoi joue-t-il? Nous en débattons dans un instant. Valérie Pécresse a quant à elle inauguré la fabrique, son QG de campagne flambant neuf dans l'ouest parisien. À l'intérieur, vous les connaissez presque tous, c'est une équipe qui rappelle furieusement la Sarkozy et la campagne de François Fillon. Valérie Pécresse peine-t-elle à imprimer son image, quitte à s'effacer devant ceux qu'elle a pourtant battus à la primaire? Les grandes voix nous en parlent. Lui, après avoir caracolé en haut des sondages, est aujourd'hui à la peine. Éric Zemmour a annoncé sur Europe 1 cette semaine peiner à rassembler les promesses de parrainage. Il en appelle publiquement au président de l'AMF, David Lisnard, pour venir en aide. Lui qui, en sous-main, bénéficierait de l'aide des Républicains pour obtenir des soutiens. Mauvais perdant ou effet pchit pour le polémiste candidat? Enfin, que se passe-t-il au Kazakhstan, ce pays lointain et pourtant stratégique, à la fois pour la Chine, la Russie, l'Europe et en particulier la France? Le bras de fer entre le président Tokayev et la population a pour fond un malaise socio-économique, alors que le chef de l'État a avancé une attaque terroriste. Le Kazakhstan est une mine d'or de matières premières pour le monde entier, charbon, uranium, etc. Alors, qu'est-ce qui est en train de se jouer là-bas? Avec quelles conséquences sur nous? Et quand je dis nous, c'est pas que la France. Réponse en fin d'émission. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. C'est une des phrases que l'on citera plus tard, en la critiquant ou en la louant, peu importe, mais on la citera. Elle est passée dans la postérité comme tant d'autres. « Je ne suis pas pour emmerder les Français, je pèse toute la journée contre l'administration. » Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et ce n'est pas tout, il remet en cause la citoyenneté des non-vaccinés. C'est l'immense faute morale des anti-vax, ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Question simple, est-ce qu'un président de la République peut dire ça, Charles Villeneuve, et de cette manière?
Écoutez, moi je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron a ses angles morts. La sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et le président presque candidat les a contournés en choisissant et en calculant soigneusement d'exprimer son envie d'emmerder les non-vaccinés qu'il a remis au premier rang des débats. La gestion du virus du Covid, le président de la République va sur un terrain qui lui est favorable. D'autant plus que dans la foulée, le vote à l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, sur le pass vaccinal n'a pas été glorieux pour la droite républicaine. Le groupe des députés LR s'est brisé en 3 parties. Un tiers a voté pour, un tiers a voté contre, un tiers s'est abstenu. Ce qui a pris à contre-pied Valérie Pécresse, qui est pour le pass vaccinal, et a montré l'autorité insuffisante de la candidate à l'élection présidentielle sur ses troupes. En cela, le double but du président de la République est atteint. Le presque candidat, je dis bien le presque parce qu'il a quasiment, dans le Parisien, annoncé sa candidature, en tout cas l'a effleuré, a marqué un point au moins temporairement, par le choix des mots et l'effet produit sur l'opinion publique.
Michel Cotta.
Alors, je vais simplement raconter la façon dont je l'ai ressenti. Quand le matin, j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est une erreur.
Sur le mot lui-même, sur la sémantique.
Sur le mot lui-même, je me suis dit, c'est une erreur considérable. Mais comment il s'en relèvera? Et nous sommes quelques-uns à nous être appelés en disant, non, ça c'est l'équivalent de François Hollande parlant à ces deux journalistes du Monde. Et puis progressivement, je me suis aperçu dans la journée qu'après ce jugement sévère et même catastrophique quand même quelque part sur un candidat, progressivement on a commencé à dire oui, mais c'est exactement ce que dit Charles, c'est-à-dire on a dit oui, mais il divise quand même il divise la droite, oui, mais il divise Valérie Pécresse. Bon. Et en réalité, je pense, en parlant de stratégie, vous savez que c'est pas tant la stratégie, c'est le personnage de Macron qui est en cause là-dedans. Le personnage, au fond, le 12 juillet, il a dit qu'il faut aller se faire vacciner. Tout le monde est allé se faire vacciner. Et là, il s'est dit, où est-ce que je peux aller le plus loin possible ? Moi, Macron, qui ai le droit de dire ce que je veux. Et c'est plutôt ça que je vois, plus que la stratégie politique. C'est si je fais tout ce que je peux, ils iront, quitte à naturellement à ce que les autres en prennent plein la figure.
Gérard Carreau.
J'ai eu, moi, à peu près un itinéraire comme celui de Michel. J'étais le matin même du Parisien sur un plateau de télé. On m'a évidemment posé la question, est-ce que c'est un bon coup pour Macron ou un mauvais coup ? J'ai réagi instinctivement en disant non, c'est pas possible, on ne dit pas ça. J'ai réagi comme un analyste politique de l'ancien monde.
Absolument, moi aussi.
C'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude, et c'est le cas pour tous ceux oui. qui sont autour de cette table, qui avaient l'habitude de fréquenter des présidents de la République qui n'auraient pas dit ça, en tout oui. cas qui n'auraient pas dit ça comme ça. Ça, c'est clair. Et puis ensuite, le temps un petit peu a passé, j'ai réfléchi, et même à la fin de l'émission, je suis réintervenu pour dire, bah, écoutez, je voudrais nuancer un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il y avait la dualité du candidat et du président. Le président n'aurait pas dû dire ça. Le candidat, à sa réélection dans 3 mois, a jugé bon et probablement a eu raison de dire ça. Pourquoi ? Parce que ce qui compte dans une politique, hein, c'est quelle que soit la politique, c'est souvent en campagne électorale, la fin justifie les moyens. Et sa fin, c'était de solidifier son bloc électoral, de solidifier les gens qui ont un peu peur, de solidifier les gens les plus âgés. Et tout ça, il l'a réussi. De mettre, et Charles l'a dit, et aussi toi, Michel, de mettre de compromettre un petit peu les forces en face de lui. Il a gêné manifestement Madame Pécresse. Il a gêné effectivement tout le monde. Donc, il a réussi son coup. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des coups comme ça ? Mais c'est aussi le signe de notre campagne qui est violente, qui n'est pas belle. Jusqu'à présent, ce n'est pas une belle campagne. La preuve qu'elle n'est pas belle, c'est qu'on ne parle rien, jamais de l'essentiel, sauf dans la pré-campagne, et qu'on ne parle plus maintenant que de la maladie et qu'on le fait d'une manière...
Mais c'est comme la guerre, peu importe qu'elle soit belle
voilà,
ou pas la campagne.
Mais les batailles, ou on les gagne ou on les perd.
Oui, Catherine.
Oui, c'est-à-dire que quand il va même plus loin, quand il traite ceux qui refusent de se faire vacciner d'être de bons citoyens, alors oui. qu'il n'y a pas de... Puisqu'il n'y a pas de loi, ils n'enfreignent pas la loi, quoi. Ils sont de mauvais citoyens parce qu'ils ne pensent pas aux autres et ils ne pensent pas à eux-mêmes et à leur santé.
Ça reste une opinion, voilà.
Ça reste une opinion. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute Macron, il dit toujours une chose et son contraire. Vous voyez, quand il a donné l'interview à TF1, il a dit, dans le fond, quand je fais le bilan, j'ai pu blesser des gens, il y a des mots que je ne redirai pas, voilà, il faut me faire attention. Donc, je veux dire, c'était plutôt, je ne le referai plus, j'ai appris. J'ai appris qu'on ne parle pas comme ça aux Français. Et là, il a appris qu'il fallait quand même, il a voulu frapper l'opinion en disant, là, c'était un coup qui était motivé. Et non pas parce qu'il a voulu séduire son éditoire, parce que là, il y avait deux femmes qui travaillaient oui. dans les soins et qui
Exactement.
Leur disaient qu'elles n'en pouvaient plus de ces gens pas vaccinés. C'était préparé de, voilà, il savait vraiment qu'il avait à dire, pour inciter les gens à se faire vacciner, et pour, mais aussi avec le risque de les exciter. Je veux dire, les policiers, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient pas du tout contents en disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans les manifs.
Oui. Et peut-être d'ailleurs, 40 000 personnes sont attendues aujourd'hui.
40 000 personnes sont attendues. Comment ça va dégénérer ? Voilà, c'est très difficile à manier. Mais d'un autre côté, la Vox Populi, et moi aussi, j'ai eu les mêmes réactions que mes deux confrères. C'est-à-dire, le premier, je me dis, quelle gaffe. Et après, je me suis dit, mais dans le fond, moi aussi, je pense ça. Moi, je me dis, mais c'est crétin. Vous voyez, quand vous voyez les deux frères Bogdanov, on disait, c'est pas beau d'être aussi intelligent pour être aussi con, pas s'être vacciné. On se dit ça, au fond. Hein, on se dit ça. Donc, on s'est dit, il parle comme nous, il nous a entendus aussi.
Alors, justement, le sondage Odoxa Le Figaro sur suite à cette phrase-là, Emmanuel Macron n'est ni sympathique, 60%, ni même compétent, 54%. Une majorité considère même qu'il ne leur dit pas la vérité, pardon, à 61%, voilà le résultat de cette phrase qui était, on le dit encore, un coup de poker.
On peut pas dire que c'est le résultat de cette phrase parce qu'il y a eu d'autres sondages qui montrent qu'effectivement, sur la forme,
il a été voilà, 26 d'opinions
positives. Un sondage en chasse une autre. Comme quoi, il faut regarder les sondages avec parcimonie.
Ce qui m'a aussi intéressé, c'est la façon dont il a mis quand même son équipe dans l'embarras, parce qu'il faut dire, le ministre de la Santé,
pour faire le service
après-vente, en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Moi, je me suis dit, alors vraiment, Olivier Véran, quand il a vu tomber, les non-vaccinés, il a dû se dire, mon Dieu, mais comment je tiens l'Assemblée ? La preuve, c'est qu'on a appelé le Premier ministre, lequel d'ailleurs s'est pas mal sorti de son exercice dans le genre.
Mais il y a eu deux nuits blanches pour rien, c'est-à-dire qu'à un voilà. moment donné, on a dû arrêter le débat.
Effectivement, ouais. pour le coup, c'est une formule. C'est une formule qu'on retiendra. Est-ce qu'elle est vraiment efficace? Je ne suis pas sûr que ça convainque qui que ce soit Charles d'aller Villeneuve. Se présenter, d'aller Charles. Se faire vacciner.
Oui, non, mais moi, je trouve que ça montre quand même que c'est un président, en réalité, diviseur et depuis le début de son quinquennat. Parce que, et ça montre surtout qu'il a soigneusement réfléchi, parce que pourquoi voulez-vous qu'il aille sur les terrains que j'évoquais tout à l'heure, ce que j'appelle des angles morts, pour prendre des coups? Parce que les résultats ne sont pas bons sur le plan de la sécurité, ne sont pas bons sur le plan de l'immigration, ne sont pas bons même avec une inflation qui commence à montrer le bout de son nez, etc. Donc pourquoi voulez-vous? C'est en cela qu'il est extrêmement tactique. C'est un vrai stratège sur ce plan-là. Il faut le reconnaître. Et ce qu'il fait, soit dit en passant, depuis le début, la France des métropoles ouvertes sur le plan des mœurs, c'est la France qui fume des clopes et qui roule en diesel. Le cercle de la raison et le magma de la masse des ignorants. Il a fait ça depuis le début, de toute façon. Ce qui est curieux, c'est qu'il s'en est excusé, comme l'a dit tout à l'heure oui, Catherine. Et il remet ça 15 jours plus tard.
Oui,
il remet ça. Et c'est pour ça que je dis, au moins temporairement, il a marqué un point. Mais c'est temporaire, parce que ça peut déboucher sur un vote, si vous voulez, cohérent en sa faveur, mais ça peut déboucher sur un vote éruptif aussi.
Oui. Catherine,
on peut dire que les vœux, là, pour ses vœux, il a fait un discours qui était très sobre, qui était bien, et il était le candidat masqué. Bon, il n'est pas candidat. Il avait même dit « Votre serviteur n'est pas candidat en décembre ». Là, il prend un élan, enfin, je veux dire... Il est déjà le candidat, il est le candidat officiel. Quand on lit toute l'interview, c'est qu'il se projette à 10 ans. Bon. Mais si le jour qu'il va entrer en campagne, parce que pour l'instant, ses proches disent qu'il a peut-être réussi à court terme, mais ça ne tire pas la campagne par le haut. Donc, le jour où il va être candidat, il faut bien qu'il abatte ses cartes. Il est candidat à sa réélection, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va trouver pour décider les gens à voter? Alors que, comme le dit très bien Charles, il y a des pans entiers de qu'il n'a pas résolu. Bon, qu'est-ce qu'il peut promettre? Alors, en général, quand il y a un acte de candidature, il y a une remontée, il y a un petit effet souffle en haut. Mais alors, d'abord, il faut qu'il l'atteigne, et après, il ne faut pas qu'il retombe, vous voyez? Donc, ça, son entrée en orbite est quand même très difficile pour lui, parce qu'il a tout dit, et le contraire de tout, dans des termes châtiés et pas châtiés, vous voyez?
Et cette semaine a été marquée par l'abaissement du débat démocratique. C'est ce que vient de déclarer Gérard Larcher, le président du Sénat, qui ouvre la conférence de presse de Valérie Pécresse qui a lieu en ce moment. Une pause et on revient avec les grandes voix. 10h19 sur Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Gérard qui poursuit la discussion justement sur la façon dont Emmanuel Macron façonne, met le cap de sa campagne. Maintenant, il est clairement candidat.
Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu clairement. Il y a un triptyque qui est de se remettre, quoi qu'il arrive, se remettre au cœur de la campagne, de rallier son camp et le durcir et embarrasser ses adversaires. Et tout ça avec une seule thématique. On pouvait penser, et notamment avec la pré-campagne de Zemmour, l'immigration, oui. l'insécurité, les angles morts, ce que Charles a rappelé, les angles morts du macronisme, on pouvait penser qu'il allait avoir du mal sur tous ces terrains. Et il n'y a pas que ça, je pourrais ajouter aussi les réformes promises et non faites, style les retraites, la politique... Il y avait plein de terrains. Et il s'est rendu compte que pour être réélu, s'il veut l'être, et c'est son objectif évident, s'il veut l'être de bonne manière, il faut qu'il soit sur le thème. Qui aujourd'hui... Écoutez, chacun d'entre nous, quand il met le nez dehors, on le met de moins en moins, mais quand on met le nez dehors et qu'on parle aux gens, on s'aperçoit que tous les gens vous parlent de la même chose, vous parlent de la Covid. Absolument. Et c'est en se mettant... Il fera donc une campagne monochromatique sur la Covid. Je suis, moi, votre meilleur protecteur... Vous, les Français, je suis votre meilleur protecteur contre cette épouvantable maladie qui nous casse les pieds, effectivement, depuis 3 ans.
Et c'est ça son atout.
Et c'est pas ça, le problème d'emmerder ou pas emmerder, le problème, c'est que c'est ça. Absolument. Il va asséner, et il l'a fait avec vigueur, mais il va continuer, il va asséner ce thème monochromatique.
Michel Cotta.
À ses risques et périls, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit absolument une réussite. Si vraiment, comme on l'annonce, ça va durer longtemps et s'il y a une énorme vague, c'est plus difficile. Mais ce que je voudrais revenir sur le... Quand même, ce qui est important, c'est le personnage Macron. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que dire un truc comme ça, il le sait, il est gonflé, quoi. Au fond, il s'affirme, et d'ailleurs, il l'assume, son côté... il a été élu parce qu'il était disruptif, insolent, en 2017. Et il se dit, après tout, si je suis disruptif et encore plus insolent en 2022, ça marchera. Voilà, je vois plus son tempérament qu'une élaboration précise.
Je nuancerai ton propos. Je pense qu'il est très tactique. Parce que là, c'est très tactique.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Et de la même manière, il est très tactique parce qu'il a observé ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, comme lui, ne sont pas rentrés très vite dans la campagne, dans l'arène. Il a raison de retarder au maximum. Le Charles de Gaulle, en 65, il rentre dans la campagne.
Mais il le paye très cher.
31 jours seulement avant le premier tour.
Je vous rappelle qu'il l'a payé cher.
Non, en 65, non, pas du tout. Non.
Il a été mis en balotage.
Parce qu'il a gagné. Il a gagné. Et de la même manière, François Mitterrand est rentré 33 jours pour le deuxième tour seulement avant. Tous sont rentrés au maximum à 69 jours, comme Chirac, ou à 67 jours avant le premier tour. Donc lui aussi va rentrer le plus tardivement possible. Il a raison. Il est quand même le maître des horloges. C'est le chef de l'État.
Oui, mais il ne peut pas. En fait, on ne peut pas dire qu'il va rentrer. Il est rentré aujourd'hui. Je dirais que s'il y avait la meilleure annonce de candidature, c'est celle qu'il a faite aux Parisiens.
Mais c'est en soi une annonce.
Alors, il y aura une annonce formelle dans quelques semaines, sous une forme que je ne connais pas. Mais il est entré en campagne et il est entré en campagne.
Mais les autres aussi.
C'est un chef. Il a conquis l'Élysée.
Il y en a une qui est en train de parler, Valérie Pécresse, en ce moment, qui donne sa conférence.
Pierre, il a conquis l'Élysée comme un chef de bande. Un chef d'un petit groupe qui a fait irruption. On n'a pas eu de campagne électorale. On a volé la campagne électorale de 2017. On est en train de voir une OPA se développer sur la campagne électorale de 2022. C'est-à-dire qu'on va ne parler que du sujet que Macron aura choisi au moment où il aura choisi. Ça, c'est pas bon pour notre démocratie.
Il va se poser des problèmes qu'on n'imagine pas et qui se dessinent déjà dans toute l'Europe. C'est la chute... le problème de le coût de l'électricité. L'Allemagne est en train de le découvrir, par exemple, parce qu'elle n'aura plus de centrale nucléaire dans 2 ans. On s'aperçoit que peut-être Mme Merkel, surtout au moment où l'Europe vient de dire que le nucléaire est une énergie verte, il y a un gros problème dans la population allemande. En France, on s'aperçoit que certaines usines fermes sont à l'arrêt parce que le coût de l'électricité devient trop cher et qu'avoir fermé Fessenheim aujourd'hui et continuer à développer les 2 centrales à charbon parce qu'on s'aperçoit polluantes. Donc il va y avoir des révisions déchirantes qui seront d'ailleurs difficiles pour les Verts qui ont été très anti-nucléaires. Mais Macron, en fermant Fessenheim, a fait un énorme péché. Et là, sur cette vision-là de l'approvisionnement en électricité, en énergie, qui est le problème. C'est ce qui se passe au Kazakhstan. C'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait, vous voyez ? Eh bien, ça va envahir, surtout si l'hiver se remet à être rude. Ça va devenir un problème central, y compris pour toutes les économies.
Si on est toujours en train
de parler du Covid et tout ça, et que pour l'instant, c'est une campagne covidienne.
Mais elle ne le restera pas. Je prends la suite de ce que disait Gérard tout à l'heure, auparavant, avant toi, parce que la question essentielle qui se pose pour moi, si tu veux, et nous en avions parlé samedi dernier, c'est le temps que va durer justement le nouveau variant. La vraie question, c'est si ça va jusque le 10 avril, date du premier tour des élections présidentielles, il aura gagné par rapport à ce qu'il vient de dire sur emmerder les non-vaccinés.
Et moi, je vous parle du temps que dure cette émission. Et 10h28, c'est le temps de marquer une pause. À tout de suite.